Que notre seule fierté soit la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. En lui, nous avons le salut, la vie et la résurrection. Par lui, nous sommes sauvés et délivrés. C'est par ces mots que nous avons ouvert cette retraite, ce Triduum, jeudi soir. Et voilà qu'hier, nous avons accompagné Jésus, crucifié. Chaque fois que nous faisons le signe de la croix, et nous le faisons souvent, rappelons-nous le triomphe de Jésus sur le mal et sur la mort. Qu'après cette retraite, plus jamais nous fassions le signe de croix comme avant, machinalement, mais que nous puissions à chaque fois rendre grâce et proclamer ce triomphe de l'amour qui va jusqu'au bout, la victoire de la vie sur la mort, du pardon sur la haine, la victoire du pardon sur la haine et sur la violence. Il y a une hymne à la croix qui est chantée parfois le vendredi saint, qui s'appelle le Vexilla Regis, et qui nous montre à quel point c'est un combat qui est mené, et le Christ est victorieux. Les étendards du roi s'avancent, la croix rayonne en son mystère. En croix, la vie subit la mort, et par sa mort eut fruit de vie. Toi qui reçus le coup de lance au fer brutal pour nous laver de la souillure du péché, tu ruisselas d'eau et de sang. Et t'accomplis ce qu'a chanté David en vers prophétique. Il proclamait « Sur les nations, c'est par le bois que règne Dieu. » Arbre splendide, éblouissant, orné de la pourpre royale, tronc choisi qui fut jugé digne de toucher des membres si saints. Bienheureux arbre dont les bras ont porté la rançon du monde. Tu pesas le poids de ce corps et l'enfer dut lâcher sa proie. Salut aux croix, seule espérance, procure au temps de la passion grâce abondante au cœur fidèle et rémission au cœur coupable. Trinité, source de salut, les vivants chantent vos louanges. Victorieux par votre croix, ils recevront la récompense. Amen. Croix victorieuse, tu pesas le poids de ce corps et l'enfer dut lâcher sa proie. Nous sommes entrés dans le grand silence du samedi saint et l'Église croit aujourd'hui que le Christ descend aux enfers. C'est ce que nous disons quand nous proclamons le credo chaque dimanche, il est descendu aux enfers. Vous n'êtes peut-être pas posé la question de ce que c'était. Le Christ est descendu aux enfers. Nous avons entendu ce matin cette magnifique lecture patristique, dans sa version complète, grâce aux sœurs. Et nous avons entendu le Christ qui va chercher chacun des morts qui reposent et qui l'attend. Vous aviez Adam, Noé, Moïse. Le Christ va chercher un par un ceux qui l'attendent dans les enfers, c'est-à-dire dans le séjour des morts. Là où ils étaient retenus captifs. Aujourd'hui, l'autel est dépouillé comme le Christ l'a été hier de ses vêtements. Il ne reste plus que la pierre nue sur laquelle a eu lieu le sacrifice. L'agneau a été immolé et nous attendons dans l'espérance la bienheureuse résurrection. Nous aussi, nous sommes comme ces morts captifs. Nous aussi, nous sommes ce matin dans le tombeau. Nous sommes dans l'impasse et nous attendons que le Christ vienne nous prendre. Le tabernacle est vide et ouvert. Nous pouvons faire aujourd'hui l'expérience sensible de l'absence de Dieu. Comme Adam a pu la faire après la chute, quand il a été chassé du paradis. Quel drame que l'absence de Dieu! Laissons monter en nous cette nostalgie du paradis pour lequel nous sommes faits. Le péché nous coupe de Dieu et nous souffrons loin de lui. Pourtant, nous avons tant de mal à lui faire confiance et à revenir vers lui pour de bon. Nous sommes souvent blessés et souffrants, comme Adam chassé du paradis. Un saint orthodoxe, saint Silouane, a écrit les lamentations d'Adam. Alors c'est très intéressant ce texte, c'est son interprétation, mais je vais quand même vous en citer quelques morceaux qui pourront nous aider à prier. Il imagine ce que Adam pouvait avoir comme prière. Alors voilà ce qu'il écrit. « Adam languissait sur la terre et sanglotait amèrement. La terre ne lui était pas douce, et il soupirait après Dieu en clamant. Mon âme languit après le Seigneur, et je le cherche avec larmes. Comment ne le chercherais-je pas? Quand j'étais avec lui, mon âme était joyeuse et sereine, et l'ennemi n'avait point accès auprès de moi. Mais à présent, l'esprit mauvais a pris pouvoir sur moi, agite et fait souffrir mon âme. Mon âme désire à mourir le Seigneur. Mon esprit s'élance vers Dieu et rien sur la terre ne peut me réjouir. Rien ne peut consoler mon âme. Mais elle désire de nouveau voir le Seigneur et être comblée par lui. Depuis longtemps, mon âme ne te voit plus. Elle aspire à toi et te cherche en pleurant. Où est mon Seigneur ? Pourquoi mon âme ne le voit-elle plus? Qu'est-ce qui l'empêche de vivre en moi? C'est que je n'ai pas l'humilité du Christ, ni l'amour des ennemis. » Et Silouane fait répondre l'homme, c'est-à-dire chacun de nous. C'est un dialogue entre Adam et nous. Et nous pouvons lui répondre, « Ô Adam, tu le vois, mon esprit est trop faible pour comprendre ton désir de Dieu. » Et pour saisir comment tu portais le fardeau de la pénitence. Ô Adam, tu vois combien moi, ton enfant, je souffre sur terre. Il n'y a presque plus de feu en moi, et la flamme de mon amour est près de s'éteindre. Ô Adam, nos âmes languissent, nous sommes écrasés sous le poids de nos peines. Dis-nous une parole de consolation. Chante-nous l'un des chants que tu entends au ciel, pour que toute la terre l'entende et que les hommes oublient leur misère. Ô Adam, nous sommes accablés de tristesse. » Et Silouane fait répondre Adam. Voici ce que je vous dirai. Le Seigneur vous aime, et vous aussi vivez dans l'amour. Soyez obéissants à toute autorité, humiliez vos cœurs et le Saint-Esprit vivra en vous. Il vient silencieusement dans l'âme, lui donne la paix et sans parole témoigne de son salut. Chantez à Dieu avec amour et humilité d'esprit, car c'est en cela que se réjouit le Seigneur. Repentez-vous devant le Seigneur et demandez. Il aime les hommes et leur accordera tout. Moi aussi, je me suis beaucoup repenti. J'ai beaucoup souffert d'avoir offensé le Seigneur et d'avoir, par mon péché, perdu la paix et l'amour sur terre. Mais j'ai tout enduré et j'ai fermement espéré en Dieu. Vous aussi, accomplissez les travaux de la pénitence. Aimez les afflictions, humiliez-vous et aimez vos ennemis. Pour que l'Esprit Saint puisse établir en vous sa demeure et vous connaîtrez le royaume des cieux. Voilà cette méditation de Silouane, les lamentations d'Adam. Nous sommes dans l'impasse, nous sommes au tombeau avec le Christ, mais il vient nous chercher. Il vient nous chercher jusque dans nos ténèbres pour faire sauter les verrous de notre cœur. Il vient faire ce que nous ne pouvons plus faire. Il y a un combat ultime qui se joue encore aujourd'hui. Laisserons-nous aujourd'hui encore le Christ aller jusqu'au fond de nos cœurs pour y porter sa lumière? Allons jusqu'au bout de ce qui a été commencé hier. Dans l'évangile de Jean, chapitre 8, après avoir renvoyé la femme adultère sans la condamner, Jésus dit au verset 12, « Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. » Aujourd'hui, le tabernacle est vide, même la croix a été enlevée. Nous n'avons plus rien où accrocher notre regard, plus rien pour prier que notre cœur brisé et notre foi nue. Nous pouvons nous unir de cœur à ceux qui ressentent l'abandon de Dieu de manière particulière, ceux pour qui la souffrance est trop lourde. Comme le peuple d'Israël en exil dans le livre de Daniel, Daniel 3, 37, 43. Vous pourrez noter pour reprendre cette prière dans cette journée. Daniel 3, 37, 43. Faisons nôtre cette prière. Nous voici, ô Maître, le moins nombreux de tous les peuples, humiliés aujourd'hui sur toute la terre à cause de nos péchés. Il n'est plus en ce temps ni prince, ni chef, ni prophète, plus d'holocauste, ni de sacrifice, plus d'oblation, ni d'offrande d'encens, plus de lieu où t'offrir nos prémices pour obtenir ta miséricorde. Mais avec nos cœurs brisés, nos esprits humiliés, reçois-nous comme un holocauste de béliers, de taureaux, d'agneaux gras par milliers. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, car il n'est pas de honte pour qui espère en toi. Et maintenant, de tout cœur, nous te suivons, nous te craignons et nous cherchons ta face. Ne nous laisse pas dans la honte, agis envers nous selon ton indulgence et l'abondance de ta miséricorde. Délivre-nous en renouvelant tes merveilles, glorifie ton nom, Seigneur. Aujourd'hui, le Christ descend aux enfers, il vient nous arracher aux griffes de la mort, c'est notre espérance. Il nous a aimés jusqu'au bout, il a voulu nous aimer jusqu'au bout, et cet amour inconditionnel est d'une puissance telle qu'il est plus fort que la mort. Jésus descend au séjour des morts, et comme il est lui-même la vie, il fait comme exploser le séjour des morts. Comme un cheval de Troie qui rentrerait puis qui fait exploser le système. Il est la vie, l'amour jusqu'au bout, renverse tout. Dans le prologue de Saint Jean, on peut lire « La lumière a brillé dans les ténèbres et les ténèbres n'ont pu l'atteindre. Les ténèbres n'ont pu le saisir, n'ont pu le contenir. Le Christ a détruit la mort. C'est pourquoi on chante « Par sa mort, il a vaincu la mort ». Je vous invite à reprendre tout ce qu'on a chanté ce matin dans l'office où tout est dit. Et demain, jour de Pâques, la séquence que nous allons chanter pendant la messe dit « La mort et la vie s'affrontèrent en un duel prodigieux. Le maître de la vie mourut, vivant, il règne. » Nous avons été témoins hier de ce duel prodigieux. Et aujourd'hui, aux enfers, le Christ retourne toutes choses. Il vient déjouer la mort sur son propre terrain. Nous ne le voyons pas, mais c'est la foi de l'Église. Nous sommes dans l'espérance et nous attendons la bienheureuse résurrection. Nous sommes aujourd'hui avec la Vierge Marie, qui a laissé son cœur être transpercé au pied de la croix hier. Selon ce qui lui avait été annoncé par le vieillard Siméon. Marie garde tous ces événements dans son cœur, à son habitude. Elle garde toutes les paroles reçues depuis le début, depuis l'Annonciation, quand l'ange lui avait dit, en Luc 1, 30, 33, « Sois sans crainte, Marie, tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. » Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob et son règne n'aura pas de fin. Et voilà que Jésus est mort, qu'elle l'a reçu dans ses bras. Mais Marie a gardé cette parole et porte toute l'espérance du peuple. Au moment où tout le monde a déserté, ou presque, Marie porte toute l'espérance de l'Église. Elle garde les événements et les paroles dans son cœur. Elle se souvient de la parole de Siméon au temple, dans Luc 2, 34-35. Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction. Et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. Et voici qu'aujourd'hui la prophétie se réalise. Le petit reste des disciples est passé au feu. Le pasteur a été frappé et les brebis ont été dispersées, selon la prophétie de Zacharie 13, 7 à 9. C'est une impasse tragique. Comment Dieu pourrait-il maintenant réaliser sa promesse ? Avec Marie, nous sommes dans l'attente. Bien des situations de notre vie peuvent paraître sans issue. Demeurons dans l'espérance, dans la foi nue. Dieu est le maître de toutes choses. Il peut tout, mais souvent pas comme nous le pensons. Je repensais ce matin à ce que me partageait un jeune il y a quelques jours. En fait, il y a quelques années, quand j'habitais Paris, je me souviens qu'il y avait un prêtre, un jeune prêtre, qui était mort en 2 jours d'un accident. Ça avait été assez traumatisant pour ses frères prêtres qui avaient été ordonnés en même temps que lui, qui étaient encore jeunes, la quarantaine, puis pour tous les jeunes que ce prêtre avait accompagnés, tous les scouts. Et dans mon école, on en parlait beaucoup. Et mes collègues disaient, mais comment est-ce que ces jeunes ne vont pas perdre la foi ? Comment c'est possible que Dieu reprenne ce jeune prêtre si rayonnant ? Où est Dieu ? Et je m'étais dit à l'époque, qui sait ? Peut-être que ces jeunes ne perdront pas la foi, mais que parmi eux, un certain nombre d'entre eux, peut-être, entendront l'appel au sacerdoce en se disant peut-être, moi je pourrais le remplacer. Ça m'avait traversé l'esprit. Il y a quelques jours, un jeune de Paris me racontait qu'il était de cette paroisse, qu'à l'époque il avait peut-être 17 ans. Et ce jeune, aujourd'hui, se pose la question d'entrer au séminaire. Il m'a dit, tu sais, quand ce prêtre est mort, je me suis dit, ben moi, je pourrais aller pour le remplacer. Voilà, je repensais à ça ce matin. Il y a des situations qui paraissent sans issue, mais Dieu sait comment il fait. Dieu sait ce qu'il fait. Voilà, donc cette espérance, cette foi nue de Marie qui voit son fils au tombeau, alors que l'ange lui avait dit, il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Il règnera pour toujours. Dieu sait comment il fait. À la mort de son ami Lazare, Jésus avait dit à Marthe, en Jean 11, versets 25-26, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela ? Lazare est mort, il est dans le tombeau depuis 4 jours. Et Jésus dit, moi je suis la résurrection et la vie. Ne te l'ai-je pas dit ? Ajoute-t-il, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Cette espérance jaillit de toute la liturgie de ce jour. Nous avons chanté le psaume 15 ce matin. Mon cœur exulte, mon âme est en fête, ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Tu m'apprends le chemin de la vie, devant ta face débordement de joie, à ta droite éternité de délices. Voilà notre espérance, tu ne peux m'abandonner à la mort. Bien sûr nous mourrons, mais le Christ a détruit la mort, il nous promet un passage. Toute la Bible nous le dit, notre Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais celui des vivants. Le Christ nous promet la vie en abondance. Nous avons lu hier Jean 10, que nous pouvons relire aujourd'hui. Il nous promet la vie en abondance et il va nous chercher jusque dans la mort, c'est-à-dire là où nous sommes coupés de lui. Il peut tout, rien n'est impossible à Dieu. Dans le livre du Deutéronome, au chapitre 30, versets 1 à 20, il y a un magnifique texte que nous avons lu pendant le carême, il y a quelques semaines. Deutéronome 30, 1 à 20, qui présente cette alternative entre la vie et la mort. Et Dieu nous dit, choisis donc la vie. Renoncer au péché, à l'idolâtrie, se mettre à la suite du Seigneur résolument en gardant ses commandements, c'est choisir la vie. Aujourd'hui encore, nous pouvons méditer sur cette alternative. Pendant cette journée en silence, où se joue ce combat entre la vie et la mort, qu'est-ce que je veux vraiment ? Est-ce que je renonce au péché, au mal sous toutes ses formes, à mes complicités, mes médiocrités, toutes mes lâchetés ? Est-ce que je choisis la vie ? Ce soir, pendant la vigile pascale, nous aurons à nous déterminer clairement. Nous aurons l'occasion de renoncer au mal et au péché et de choisir la vie en professant notre foi au Christ ressuscité. Je vous relis ce texte du Deutéronome qui parle de lui-même. Tu reviendras au Seigneur ton Dieu, toi et tes fils, tu écouteras sa voix de tout ton cœur et de toute ton âme. Tu observeras tout ce que je te commande aujourd'hui. Alors le Seigneur changera ton sort, il te montrera sa tendresse et il te rassemblera de nouveau du milieu de tous les peuples où il t'aura dispersé. Serais-tu exilé au bout du monde, là même le Seigneur ton Dieu ira te prendre et il te rassemblera. Le Seigneur ton Dieu te fera rentrer au pays de tes pères, au pays que tes pères ont possédé, et tu le posséderas. Il te rendra heureux et nombreux, plus encore que tes pères. Le Seigneur ton Dieu te circoncira le cœur, à toi et à ta descendance, pour que tu aimes le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, afin de vivre. Et le Seigneur ton Dieu fera tomber toutes les malédictions sur tes ennemis et sur ceux qui te haïssent et te persécutent. Quant à toi, tu reviendras et tu écouteras la voix du Seigneur. Tu mettras en pratique tous ces commandements que je te donne aujourd'hui. Le Seigneur te comblera de bonheur en toutes tes œuvres. Il fera fructifier ta famille, ton bétail et ton sol. Oui, de nouveau, le Seigneur prendra plaisir à ton bonheur, comme il prenait plaisir au bonheur de tes pères. Pourvu que tu écoutes la voix du Seigneur ton Dieu en observant ses commandements et ses décrets inscrits dans ce livre de la loi, et que tu reviennes au Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Car cette loi que je te prescris aujourd'hui n'est pas au-dessus de tes forces ni hors de ton atteinte. Elle n'est pas dans les cieux pour que tu dises « Qui montera aux cieux pour nous la chercher ? Qui nous la fera entendre afin que nous la mettions en pratique ?» Elle n'est pas au-delà des mers pour que tu dises « Qui se rendra au-delà des mers nous la chercher ? Qui nous la fera entendre pour que nous la mettions en pratique ?» Elle est tout près de toi, cette parole. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur afin que tu la mettes en pratique. Vois, je mets aujourd'hui devant toi ou bien la vie et le bonheur, ou bien la mort et le malheur. Ce que je te commande aujourd'hui, c'est d'aimer le Seigneur ton Dieu, de marcher dans ses chemins, de garder ses commandements, ses décrets et ses ordonnances. Alors tu vivras et te multiplieras. Le Seigneur ton Dieu te bénira dans le pays dont tu vas prendre possession. Mais si tu détournes ton cœur, si tu n'obéis pas, si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous le déclare aujourd'hui, certainement vous périrez et vous ne vivrez pas de longs jours sur la terre dont vous allez prendre possession quand vous aurez passé le Jourdain. Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Je mets devant toi la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Choisis donc la vie pour que vous viviez, toi et ta descendance, en aimant le Seigneur ton Dieu, en écoutant sa voix, en vous attachant à lui. C'est là que se trouve ta vie, une longue vie sur la terre que le Seigneur a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. J'ai relu longuement ce texte qui, me semble-t-il, résume tout ce que nous vivons dans ce Triduum pascal. Le Seigneur vient nous chercher dans nos lieux de mort et vient nous supplier, non pas seulement nous proposer, mais nous supplier de choisir la vie. Si nous sommes ici, c'est que nous suivons le Seigneur, mais parfois, nous avons encore cette idée qui a sa racine dans le péché originel, que peut-être la vie avec le Seigneur, ce n'est pas complètement le bonheur, c'est peut-être la souffrance. Vous voyez, on a cette idée, le monde nous voit comme ça parfois. Que la liberté, ça serait d'être loin du Seigneur, alors que le Seigneur nous dit, la liberté, la vie, le vrai bonheur, il est avec moi. Alors ce soir, quand viendra le moment de renouveler les promesses de notre baptême, nous nous tiendrons debout avec nos cierges allumés et nous répondrons à l'invitation que le prêtre nous adressera en ces termes, ou d'autres semblables. Je les cite pour que nous puissions nous y préparer. Frères bien-aimés, par le mystère pascal, nous avons été mis au tombeau avec le Christ dans le baptême, afin qu'avec lui nous vivions d'une vie nouvelle. C'est pourquoi, après avoir terminé l'entraînement du carême, renouvelons la renonciation à Satan que l'on fait lors du baptême, renouvelons notre profession de foi au Dieu vivant et vrai. Par le mystère pascal, dans ce Triduum pascal, nous avons été mis au tombeau avec le Christ dans le baptême. C'est le sens de notre baptême. Nous allons ce soir, cette nuit, faire mémoire de notre baptême. Avec le baptême, nous avons été mis au tombeau avec le Christ. Ce matin, le Christ est au tombeau pour nous faire ressusciter. Il vient nous chercher et ça, c'est le sens de notre baptême. Nous pouvons prier pour tous ceux qui vont être baptisés dans la nuit. Mais nous aussi, demandons au Seigneur d'être renouvelés entièrement. Demandons une nouvelle effusion de l'Esprit-Saint cette nuit. Préparons-nous, préparons nos cœurs. Rejetons tout mal pour vraiment choisir le Christ, choisir la vie. C'est l'oraison que nous avons entendue ce matin à la fin de l'office, ici même il y a quelques minutes. Je vous la relis, vous l'avez sur vos feuilles et je vous invite à prier avec ces feuilles-là. Dieu éternel, si vous les avez, sinon tant pis. Dieu éternel et tout-puissant, dont le Fils unique est descendu aux profondeurs de la terre, d'où il est remonté glorieux, accorde à tes fidèles, ensevelis avec lui dans le baptême, d'accéder par sa résurrection à la vie éternelle. Le Christ est dans le tombeau, il descend aux enfers, mais nous sommes avec lui, nous sommes dans le tombeau par notre baptême, et il nous a fait ressusciter. Accorde à tes fidèles, ensevelis avec lui dans le baptême, d'accéder par sa résurrection à la vie éternelle. Voilà notre espérance. Vous connaissez l'histoire du prophète Jonas qui a été englouti pendant trois jours et trois nuits dans le ventre du poisson. Évidemment, cette histoire préfigure le Christ qui est pendant trois jours prisonnier de la mort pour pouvoir nous en délivrer justement. Alors je vous invite à reprendre cette magnifique prière de Jonas, chapitre 2, versets 3 à 10. Nous pouvons faire nôtre cette prière en ce jour et dire toute notre espérance pour nous-mêmes et pour tous ceux que nous connaissons qui sont prisonniers de la mort, qui sont coupés de Dieu. Dans ma détresse, je crie vers le Seigneur et lui me répond. Du ventre des enfers j'appelle, tu écoutes ma voix. Tu m'as jeté au plus profond du cœur des mers et le flot m'a cerné. Tes ondes et tes vagues ensemble ont passé sur moi. Et je dis, me voici rejeté de devant tes yeux. Pourrais-je revoir encore ton temple saint? Les eaux m'ont assailli jusqu'à l'âme, l'abîme m'a cerné. Les algues m'enveloppent la tête. À la racine des montagnes, je descendis au pays dont les verrous m'enfermaient pour toujours. Mais tu retires ma vie de la fosse, Seigneur mon Dieu. Quand mon âme en moi défaillait, je me souvins du Seigneur et ma prière parvint jusqu'à toi dans ton temple saint. Les servants de vaines idoles perdront leur faveur, mais moi, au son de l'action de grâce, je t'offrirai des sacrifices. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Au Seigneur appartient le salut. Que cette journée en silence avec Marie soit l'occasion de nous préparer sérieusement à choisir la vie, c'est-à-dire l'obéissance à Dieu, à nous déterminer pour lui. Et en le faisant pour nous-mêmes, nous entraînons toute l'Église et le monde entier. Il y a une solidarité dans le bien, dans le choix du Christ. Est-ce que je veux aujourd'hui mourir avec lui pour renaître ? Il nous faut renaître, disait Jésus à Nicodème. Il nous faut naître d'en haut. Demandons vraiment cette grâce dans cette nuit pascale et prions les uns pour les autres. Pour recevoir le salut, pour renaître, il faut une seule chose, se reconnaître pécheur, reconnaître que nous avons besoin du salut. Ça paraît simple et pourtant c'est si difficile pour nous. Nous l'avons vu depuis hier, comme nous aimerions pouvoir nous sauver nous-mêmes, comme il est difficile de regarder le Christ sur la croix, comme il est difficile de le laisser nous sauver. Dans une conférence de carême en 2014, à Notre-Dame de Paris, le cardinal 23 avait donné une méditation sur ce thème que je voudrais vous partager pour nourrir notre prière en ce jour. Je le cite. Tout au long de son histoire, chaque membre du peuple élu va être peu à peu et de plus en plus placé devant ses responsabilités. Accepte-t-il de recevoir sa vie de celui qui est plus fort que la mort ? Accepte-t-il de lutter contre son propre péché en faisant confiance à celui qui veut le sauver de la mort ? Est-il prêt à se reconnaître pécheur, c'est-à-dire digne de mort ? Pour suivre jusqu'au bout celui qui seul peut le faire accéder à la vie. Finalement, pour se reconnaître pécheur, il faut au moins trois conditions. Premièrement, reconnaître non seulement que nous n'avons pas toujours raison, mais que nous ne faisons pas toujours le bien, et même que nous ne le désirons pas toujours. Chacun de nous, malheureusement, peut y arriver assez vite avec un peu d'honnêteté et de lucidité sur sa vie. Deuxièmement, il nous faut découvrir que cette inclination au mal ne se résume pas à quelques actes ponctuels ou à quelques pulsions sporadiques, mais qu'elle est profondément enracinée en nous et qu'elle nous coupe du Dieu vivant, qu'elle nous pousse quotidiennement à préférer la mort à la vie. Cette découverte n'est possible que dans la lumière de la miséricorde. Elle est le fruit de la grâce du Seigneur qui nous permet de nous regarder en face et d'arriver, malgré cela, à désirer vivre quand même. D'où la troisième condition. Se reconnaître pécheur, c'est savoir que Dieu est plus grand que notre cœur, qu'il ne nous abandonne pas à notre péché. Nous sommes aujourd'hui en silence avec Marie. Et le Christ vient nous chercher dans ce tombeau. Marie nous enseigne le silence. Le silence nous donne accès à l'intériorité. Marie nous conduit doucement à descendre dans les parties ténébreuses de notre cœur. Elle nous prend la main, elle nous rassure. Nous attendons, nous espérons le salut de Dieu. Notre attente dans le silence est la manifestation de notre espérance. Quand on n'a pas d'espérance, on s'agite, on crie, on est violent, parfois blasphémateur. L'espérance, au contraire, nous garde dans la paix. Dans le livre des Lamentations, on trouve ces versets magnifiques, Lamentations 3, 21-33. Voici ce que je redis en mon cœur, et c'est pourquoi j'espère. Grâce à l'amour du Seigneur, nous ne sommes pas anéantis. Ses tendresses ne s'épuisent pas, elles se renouvellent chaque matin. Oui, ta fidélité surabonde. Je me dis, le Seigneur est mon partage, c'est pourquoi j'espère en lui. Le Seigneur est bon pour qui se tourne vers lui, pour celui qui le cherche. Il est bon d'espérer en silence le salut du Seigneur. Il est bon pour l'homme de porter le joug dès sa jeunesse, qu'il reste assis, solitaire, en silence, tant que le Seigneur le lui impose, qu'il tienne sa bouche contre terre, peut-être y a-t-il un espoir, qu'il tende la joue à qui le frappe, qu'il se laisse saturer d'insultes, car le Seigneur ne rejette pas pour toujours. S'il afflige, il fera miséricorde selon l'abondance de sa grâce. Ce n'est pas de bon cœur qu'il humilie, qu'il afflige les enfants des hommes. Il est bon, il nous est bon aujourd'hui, samedi saint, il est bon d'attendre, d'espérer, d'attendre dans le silence le salut de Dieu. Jésus s'est laissé conduire à la croix comme une brebis muette à l'abattoir. Maltraité, il s'humilie, il n'ouvre pas la bouche. Comme un agneau conduit à l'abattoir, comme une brebis muette devant les tondeurs, il n'ouvre pas la bouche. Hier, Jésus était silencieux devant ceux qui le condamnaient. Il a gardé la paix devant ceux qui vociféraient. Jésus est doux et humble de cœur parce qu'il a cette force qui lui vient du Père. L'assurance d'être en sécurité dans la main du Père. Nul ne peut rien arracher de la main du Père, dit Jésus en Jean chapitre 10. C'est pourquoi il peut tendre la joue à ses persécuteurs et garder confiance. Ce mystérieux serviteur souffrant de la prophétie d'Isaïe est mort. Je vous rappelle le texte, « Arrêté puis jugé, il a été supprimé. Qui donc s'est inquiété de son sort? Il a été retranché de la terre des vivants, frappé à mort pour les révoltes de son peuple. On a placé sa tombe avec les méchants, son tombeau avec les riches. » Oui, le serviteur souffrant est bien mort et enterré. Le Christ est véritablement mort, il est au tombeau. Et pourtant, le texte continue mystérieusement par ces mots que vous avez peut-être relevés hier. Broyé par la souffrance, il a plu au Seigneur. S'il remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance. Il prolongera ses jours. Par lui, ce qui plaît au Seigneur réussira. Par suite de ses tourments, il verra la lumière. La connaissance le comblera. Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes. Il se chargera de leurs fautes. C'est pourquoi parmi les grands, je lui donnerai sa part. Avec les puissants, il partagera le butin. Car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort et il a été compté avec les pécheurs. Alors qu'il portait le péché des multitudes et qu'il intercédait pour les pécheurs. Il y a une minuscule flamme dans ce texte. Cette espérance est déjà présente, comme la petite flamme que nous avons laissée sur l'autel, à partir de quoi tout peut repartir. Il verra une descendance, il prolongera ses jours, il verra la lumière. Une toute petite flamme, on l'a vu, peut être à l'origine d'un immense incendie. Ce soir, nous serons réunis autour du feu nouveau et nous verrons ce feu se répandre peu à peu et prendre de l'ampleur à travers nos petits cierges. Nous recevrons l'Esprit Saint en plénitude dans la nuit de Pâques. La lumière va peu à peu gagner sur les ténèbres et nous serons complètement illuminés. Le prêtre introduira la prière avec la bénédiction du feu nouveau en ces termes. Seigneur notre Dieu, par ton Fils qui est la lumière du monde, tu as donné aux hommes la clarté de ta lumière. Daigne bénir cette flamme qui brille dans la nuit. Accorde-nous, durant ces fêtes pascales, d'être enflammés d'un si grand désir du ciel que nous puissions parvenir avec un cœur pur aux fêtes de l'éternelle lumière. Le Christ, lumière du monde, sera symbolisé par le cierge pascal, cette petite flamme dans la nuit, allumée au feu nouveau, qui nous guidera jusqu'à l'intérieur de l'Église. Et alors nous entrerons, nous aussi, avec notre cierge allumé. Et à ce moment-là, nous penserons à notre baptême. Nous rendrons grâce pour ce baptême, parce que le Christ est venu nous chercher dans le tombeau pour nous faire ressusciter avec lui. Quand nous passerons la porte de l'Église, pensons que cette porte représente la porte du ciel par laquelle nous entrerons au ciel, cette porte qui s'ouvre pour accueillir les croyants. Demandons dès maintenant, dès ce matin, ce désir du ciel. Préparons-nous dans la joie, dans le silence, dans une joie profonde, la joie de Marie qui garde cette espérance au cœur. Et dans la sainte crainte de Dieu, préparons-nous à ce passage ce soir. Le Christ a prié ce psaume que nous avons entendu hier à l'office de la Passion. Psaume 30. En toi, Seigneur, j'ai mon refuge. Garde-moi d'être humilié pour toujours. Dans ta justice, écoute et viens me délivrer. Sois le rocher qui m'abrite, la maison fortifiée qui me sauve. Ma forteresse et mon roc, c'est toi. Pour l'honneur de ton nom, tu me guides et me conduis. Tu m'arraches au filet qu'ils m'ont tendu. Oui, c'est toi mon abri. En tes mains, je remets mon esprit. Tu me rachètes, Seigneur Dieu de vérité. Je hais les adorateurs de faux dieux, et moi je suis sûr du Seigneur. Ton amour me fait danser de joie. Tu vois ma misère et tu sais ma détresse. Tu ne m'as pas livré aux mains de l'ennemi. Devant moi, tu as ouvert un passage. Et le Christ a ouvert un passage. C'est sa Pâque, c'est la Pâque du Seigneur. Préparons-nous dans cette journée de silence. Ouvrons notre cœur à ce que le Seigneur veut faire aujourd'hui pour chacun de nous. Il a un projet pour chacun et il nous attend. Ne passons pas à côté de cette journée. Prenons le temps de vraiment méditer la parole, de préparer nos cœurs. Il y a un combat spirituel spécifique à ce jour du samedi saint. C'est que la nature a horreur du vide. C'est assez difficile de passer cette journée entière dans un certain vide, alors que l'Église est vide, que c'est une journée de silence, que la liturgie nous aide un peu, mais il y a peu de choses. Nous retrouverons à 14h15 pour l'office du milieu du jour ici, suivi du deuxième enseignement, qui nous préparera davantage à vivre la vigile pascale. Prions les uns pour les autres et gardons bien le silence. Amen.